Régis Jeantet et Stéphane Siouan, bonjour.
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 Heureuse de vous recevoir en studio à Paris. Vous êtes les correspondants de RFI à Tbilissi et à Kiev. Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros, c'est donc le titre de la biographie que vous publiez. Un héros malgré lui, dirons-nous, vous écrivez « La combativité des Ukrainiens était un fait acquis. La surprise du chef, c'est le courage physique et moral de Volodymyr Zelensky. » Stéphane.
Oui, tout à fait. Le qualificatif de héros ne s'appliquait pas forcément à Volodymyr Zelensky. C'était quelqu'un qui n'avait pas forcément cette étoffe au départ. Il y avait beaucoup de doutes, de spéculations dans la société ukrainienne sur la capacité de cet homme d'endosser de grandes responsabilités. Avant le conflit, les cotes d'adhésion à son action étaient de 20 à 25% dans la société.
Et il s'était fait élire président avec le programme de faire la paix aussi.
Oui, tout à fait, de faire la paix. Et il avait une image dans la société de quelqu'un qui pouvait éventuellement rechercher des concessions avec la Russie. Il avait montré au début de son mandat qu'il était prêt à aller discuter avec Vladimir Poutine. Et la société ukrainienne n'a eu de cesse pendant 3 ans de lui rappeler les lignes rouges qui sont celles de ne céder en aucun point sur la souveraineté ukrainienne. Et donc, il a véritablement subi un crash test, je dirais, le 24 février. Et c'est là que se révèle la personnalité des hommes, voire des grands hommes.
Et vous dites, ces plus féroces critiques d'avant-guerre le soutiennent désormais.
Alors, en l'espace de 48 heures, sa popularité est passée de 25% à 90%, en tout cas selon les instituts de sondage. Et pour avoir discuté avec plusieurs journalistes ukrainiens qui avaient été fortement critiques de son action, ils ont mis leur critique sous l'éteignoir. C'est-à-dire que même ses plus féroces ennemis dans la société ukrainienne, soit ils se sont mis derrière le commandeur en chef, parce que c'est comme ça qu'on agit lorsqu'il y a une guerre, ou alors en se disant déjà qu'il gère plutôt bien son action. Il y a une véritable adhésion à la manière dont il a dirigé la société ukrainienne, ou alors tout simplement de se dire on reviendra à la politique une fois que la guerre sera terminée.
Alors Stéphane, vous parliez des 48 premières heures et pendant ces 48 premières heures. Régis, il y a cette vidéo du 25 février, au surlendemain du début de la guerre, quand il sort dans la rue en pleine nuit avec ses plus proches conseillers pour dire « Eh bien, bonjour, on est là et on n'a pas fui », comme l'affirme Moscou. Cette vidéo, d'une certaine façon, elle est basique, mais c'était aussi un coup de maître. Ça a été un moment clé du début de cette guerre.
Oui, absolument, parce qu'il faut se souvenir du contexte qui est extrêmement important. C'est qu'il y a on l'a appris plus tard, mais il y a eu des tentatives d'assassinat contre lui. Et à ce moment-là, il y a des commandos russes qui sont au cœur de Kiev, apparemment, qu'on n'a pas vu, mais on commence à avoir les informations et qui sont là pour le tuer ou l'enlever, lui, sa famille et ses plus proches conseillers. Il faut se souvenir aussi que dans ces jours-là, la 76e division aéroportée de Pskov, qui est ce qu'on fait de mieux dans l'armée russe, est en train d'essayer de prendre un aéroport militaire aux abords de Kiev, précisément pour pouvoir ensuite investir la ville, avec, souvenez-vous, ce premier but de guerre de M. Poutine, qui était de renverser, de décapiter le pouvoir ukrainien. Donc la pression est vraiment très forte et on peut dire qu'à ce moment-là, chacun a conscience qu'il pourrait perdre la vie. Il l'avait dit d'ailleurs, à ce moment-là, ça va avoir un vrai effet dans la société ukrainienne, puisqu'on a quelque chose comme 100 000 Ukrainiens qui décident, dans les heures et jours qui suivent, de rejoindre la défense nationale.
Vous écrivez que depuis le début de la guerre, il passe en fait son temps sur Zoom, au téléphone, sur Skype, laissant la gestion de la crise à ses fidèles conseillers et puis à l'armée. Hein. Ce qu'il faut souligner, c'est que sa pratique d'être aussi présent sur les réseaux sociaux n'a en fait pas débuté avec la guerre. Hein. Il a vécu dans un monde de la communication. Il communiquait déjà ainsi avec les Ukrainiens pendant la campagne et quand il a été élu président. Il connaît tous les codes de la communication ?
Oui, tout à fait. Moi, ce qui me frappe énormément depuis le début de la guerre, c'est la manière dont Volodymyr Zelensky utilise à merveille les codes de la communication digitale, de la communication visuelle, mais aussi la manière dont son management et sa gouvernance a évolué. On a souvent critiqué Volodymyr Zelensky au départ de sa présidence pour quelqu'un qui manquait de confiance, qui était dans le micromanagement, qui voulait tout faire lui-même, qui ne s'entourait que de personnes avec qui il avait un lien quasiment clanique, familial, ses amis l'enfance. Il a nommé un de ses meilleurs amis d'enfance et associé d'affaires à la tête des services secrets ukrainiens. Et je crois qu'avec le temps, il a commencé à savoir déléguer. Et on voit maintenant que, notamment au niveau de la direction des affaires militaires, il n'hésite pas à faire confiance à l'armée. C'est quelqu'un qui n'a pas de connaissances, de background militaire. Il ne connaît pas grand-chose en stratégie militaire. Et il laisse l'armée faire le job. On voit également qu'il donne beaucoup de latitude aux gouverneurs régionaux, qui sont des jeunes trentenaires ou cadras, pour s'occuper de la défense. Donc voilà, il laisse les gens travailler et il se concentre sur son rôle essentiel, qui est celui d'une hyper-communication globale en direction de sa population, mais également en direction de la communauté internationale. Et moi, il y a un terme que j'aime bien pour qualifier Volodymyr Zelensky, c'est que c'est un président écran. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les codes de la communication visuelle. Je dirais qu'il n'a même pas besoin de conseiller en communication, parce qu'il est son propre conseiller de communication. C'est quelqu'un qui était non seulement humoriste, mais également comédien, producteur, réalisateur. Les films qu'il faisait, c'était pas de la grande qualité, mais par contre, il sait très bien ce que c'est un steadicam, il sait quelle caméra utiliser, quel objectif utiliser pour créer telle émotion sur l'auditoire qu'il souhaite avoir, et il utilise ça à merveille. Et je crois qu'on a rarement vu dans l'histoire contemporaine un chef d'État qui, de manière aussi intuitive, maîtrise les codes de la communication visuelle.
Et en même temps, Régis, on voit bien que dans cette bataille d'images, l'image qu'il veut faire passer, c'est une image en opposition à celle de Poutine. On voit un Poutine brutal qui rembarre ses ministres. Lui, Zelensky, joue la simplicité, la proximité.
Effectivement, j'ai l'impression qu'il le fait quand même assez naturellement, à vrai dire. Mais effectivement, quel contraste entre un monsieur Poutine qui parle avec ses principaux conseillers à peu près 10 ou 15 mètres au bout d'une grande table dans une salle pleine de dorures et de colonnades, et lui qui s'assoit sur les marches de la Banque Ovale, le siège de la présidence, à même le tapis de sol, et qui donne une interview à un grand média américain. Donc effectivement, il y a un contraste qui est assez naturel et en même temps dont il joue, bien sûr.
Alors, ce qui peut étonner Stéphane, c'est que celui qui parle désormais d'égal à égal avec les plus grands du monde, qui peut dire aux Américains « je n'ai pas besoin d'un taxi, mais de munitions ou d'armes », alors que Washington lui proposait de fuir, avait une maîtrise des dossiers politiques à son arrivée pour la présidence en 2019, un peu légère. Vous l'avez rencontré à ce moment-là. Ce que l'on retient de ce que vous dites, pensée brouillonne et pas très bonne maîtrise des dossiers.
Oui, et c'est toujours partiellement le cas d'ailleurs. Volodymyr Zelensky n'est jamais aussi bon que quand il a l'occasion de créer lui-même ses messages. D'ailleurs, il le dit lui-même, je suis un créateur de messages, c'est ma profession. C'est ce qu'il nous dit, en tout cas lors de la première rencontre en mars 2019. La dernière fois que j'ai eu un entretien dans une pièce relativement petite avec trois journalistes et lui, c'était en août dernier. Et il avait encore beaucoup de difficultés dans le mode interview spontané avec des journalistes quand il ne connaît pas les questions. Il part dans des tunnels de réponses assez incompréhensibles parfois. Il a une pensée qui est assez vaporeuse. Sa maîtrise technique des dossiers économiques, voire internationaux, peut être compliquée lorsqu'il n'a pas préparé ses interventions.
D'où sa relation compliquée parfois avec les journalistes.
D'où sa relation compliquée avec les journalistes, même si maintenant il fait ses fameuses conférences de presse un peu spectaculaires. Alors on a vu celle dans le métro de Kiev, dans des espaces de coworking, dans l'usine Antonov. Donc cet exercice de la conférence de presse publique, il le maîtrise mieux. Il est capable de répondre du tac au tac à des journalistes qui lui posent une question qui fâche un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'au départ de sa présidence, c'était quelque chose de totalement différent. Il cherchait à éviter les journalistes à tout prix. Son équipe de campagne se débrouillait pour créer en fait un vase clos autour du candidat, de façon à ce qu'on puisse l'approcher à quelques mètres, mais qu'on ne soit jamais capable de lui poser une seule question. Et moi, j'avais participé à un déjeuner organisé par Zelensky avec six journalistes. Donc c'était juste avant l'élection présidentielle et on avait eu 2 heures pour discuter avec lui et on avait tous été frappés de sa maîtrise totalement aléatoire de dossiers, parfois parmi les plus simples, c'est-à-dire que les grands principes de l'OTAN, je pense qu'il ne les connaissait pas à ce moment-là. Lorsqu'on lui demandait, votre message principal c'est de mettre fin à la guerre dans le Donbass, comment vous allez vous y prendre, il était incapable de dire comment il allait le faire.
Mon charisme va permettre...
Totalement. Mmh. C'est quelqu'un en fait qui misait uniquement sur son charisme. Alors après, il s'est rendu compte qu'il fallait travailler les dossiers, et c'est un bosseur par ailleurs. C'est quelqu'un qui sait travailler les dossiers. Mais à l'époque, il nous disait que pour faire revenir les régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk, ses talents d'acteur et son magnétisme seraient largement suffisants. Il nous disait qu'il allait produire des messages en langue russe et que les populations reviendraient dans le giron de l'Ukraine. Et nous, ça nous paraissait totalement surréaliste à ce moment-là.
Et quand on lit votre biographie, on se dit que Zelensky était peut-être le plus improbable des Ukrainiens pour tenir tête à Vladimir Poutine. Vous revenez longuement sur son enfance. Il est né dans le sud-est de l'Ukraine, il est né en URSS, il a baigné dans un monde russe. Quand il était dans sa vie d'avant humoriste, acteur, donc quand le célèbre président Goloborodko, dans la série Serviteur du peuple, il faisait rire l'ensemble du monde russe.
Oui, effectivement. Avec même parfois, notamment dans les shows comiques auxquels il a beaucoup participé, sous forme parfois de radio-crochet, etc., avec un humour qui a fait beaucoup grincer les dents en Ukraine, parce qu'il a pu se moquer, par exemple, de Holodomor, la famine politique, on va dire, des années organisée par Staline dans les années 30. On ne plaisante pas avec ça. Je me souviens aussi pendant la guerre en 2008 en Géorgie, par exemple, où c'était déjà la même guerre que l'on voit, c'est la même histoire. Et il se moquait beaucoup du président Saakashvili et du président ukrainien de l'époque, Yushchenko, sur le mode vous êtes les caniches des États-Unis. Donc c'était certainement un humour qui devait faire très plaisir aux Russes à l'époque. Et c'est vrai que tout son pédigré socio-culturel fait de lui quelqu'un qui aurait pu tout à fait être compatible, comme une partie des politiques ukrainiens, avec le monde russe de M. Poutine, qui est une expression très, très impérialiste en réalité, le monde russe. Et lui, puisque la société ukrainienne est en pleine mutation, depuis 30 ans notamment, depuis la chute de l'Union soviétique, mais aussi depuis la guerre de 2014, où les gens ont pu voir, les Ukrainiens de l'Est notamment, combien la politique de M. Poutine était brutale, sans égard, que vous soyez russophone ou pas, on le voit dans cette guerre, combien de russophones sont tués sous les bombes russes, donc c'est pas la question en réalité, ça c'est de la manipulation politique. Eh bien lui a compris ça et il bouge avec sa société par sa jeunesse. Il avait 13 ans en 91 et donc il fait partie de cette génération qui au fond se soucie assez peu de la Russie finalement.
Et ce qui est étonnant, c'est que ce que vous dites à un moment dans votre livre, c'est que son humour russe pouvait être jugé trop trivial par une partie de la société ukrainienne, la partie nationaliste ukrainienne.
Ah oui, totalement. Il y a un véritable hiatus avant cette guerre entre Volodymyr Zelensky et ce qu'on appelle les 25%, c'est ceux qui n'ont pas voté pour lui, qui ont voté pour Petro Poroshenko, qui correspondent, alors on dirait la partie patriote de la population, mais également à l'intelligentsia ukrainienne. Et au moment de l'élection, je crois qu'il y a une grande partie des artistes, des intellectuels de Kiev qui tombent complètement dénus d'avoir un président qui a fait sa carrière avec des blagues au ras de la ceinture, qui ne parle pas bien ukrainien, qui est relativement vulgaire. Ça va très très loin, hein, les shows de Volodymyr Zelensky. Moi, j'en ai vu à la télévision, je l'ai vu sur scène. C'est vraiment pas du grand art. Je maîtrise pas toutes les ficelles de l'humour russe. Mais bon, il y a des choses qui sont vraiment très 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 limites. Et je crois qu'il y avait un vrai problème d'image. Et il y a des gens qui ne se sont toujours pas remis de l'élection d'un personnage comme ça. On connaît également en France hein, des humoristes, des présentateurs de télévision qui vont très très loin dans le graveleux. Il faut s'imaginer ce type de personnage qui pourrait devenir président de la République. Maintenant, ses plus féroces critiques se sont ralliées à lui, au moins en temps de guerre. Mais je crois que le personnage a évolué également, il a gagné de la profondeur. Il a 44 ans, il dit qu'il n'est plus le même homme. Il déclare qu'en fait, il a acquis une sagesse qu'il ne voulait pas, qu'il ne souhaitait pas, et que cette sagesse, ce sont les morts qui la lui ont donnée. Et moi, je crois que c'est désormais un tout autre personnage que celui qui était connu sur les écrans de télévision il y a 10 ans.
Et en même temps, il a fait sa mue, effectivement, on le voit pendant la guerre, mais il l'a fait très tôt en réalité, parce qu'il y a un moment très important qui est décembre 2019, où pour la première fois, il est face à M. Poutine, celui qu'il avait promis de regarder dans les yeux pour régler la paix dans le Donbass. Et ce jour-là, c'est à Paris que ça se passe, dans ce qu'on appelle le format Normandie, avec la France, l'Allemagne. Et donc, il est face à M. Poutine, qui a 20 ans d'expérience, qui a roulé tous les présidents de la planète, etc. Et Zelensky, qui est un petit comédien et qui sait à peine ce que c'est que l'OTAN. Et ce jour-là, à Paris, il tient tête à Poutine, il ne lâche rien. Jusqu'à la dernière minute, toute la presse ukrainienne qui était sur place tremblait de le voir lâcher du lest face à un Poutine impressionnant, menaçant, etc. Et il ne lâche rien ce jour-là. Et donc, le Zelensky qu'on voit en guerre, déjà en décembre 2019, il est là au fond.
Et alors, ce Zelensky qui devient chef de guerre, vous le dites à plusieurs reprises dans ce livre, a une aversion pour la violence et la guerre.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui était totalement frappant, même lors de la première rencontre qu'on a eue, ce fameux déjeuner avec 6 journalistes. Nous, on l'a senti d'une manière très particulière. C'est lorsqu'on évoquait la mémoire de la révolution de Maïdan, où il avait une sorte d'aversion visible dans le visage par rapport à ces événements de la place de l'indépendance de 2014, où il avait un rejet de la violence, du sang, de la mort. Il avait des rictus lorsqu'il évoquait cette mémoire, et il a répété à plusieurs reprises, il ne faut pas qu'il y ait d'autres Maïdan. Alors que pour la société ukrainienne, malgré le drame, c'est quelque chose qui est resté de manière positive, c'est la révolution de la dignité, et lui, il a eu du mal à endosser cet héritage. Par ailleurs, c'est quelqu'un, on le voit, qui est fortement blessé, heurté par la guerre dans le Donbass. On sent que, alors je dirais pas que c'est un antimilitariste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune passion pour les affaires militaires de ce monde. Et puis, il faut comprendre que dans l'équipe d'humoristes de Volodymyr Zelensky, le Kvartal 95, on a des gens qui viennent du sud et de l'est de l'Ukraine. Et notamment, il y a beaucoup de gens du Donbass, d'humoristes de la région de Lugansk dans son équipe. Et son meilleur ami, qui joue le rôle du ministre des Affaires étrangères dans la série Serviteur du peuple et qui le remplace actuellement dans les émissions télévisées du Kvartal 95, et de Lugansk, à sa mère qui habite à Lugansk. C'est un acteur qui n'a pas pu se rendre à l'enterrement de son père parce que désormais c'est en territoire séparatiste. Donc son entourage est également touché directement par cette guerre. Et pour terminer, il y a quelque chose que Zelensky a souvent dit lors de rencontres, et moi ça a été confirmé par des personnes qui le connaissent. Sa valeur cardinale, c'est la valeur de la vie humaine. Et il le répète depuis le début du conflit. On l'a encore vu ces derniers jours dans sa gestion du dossier Azovstal. Pour lui, le plus important n'est pas forcément la victoire, n'est pas forcément la grandeur du pays. Pour lui, c'est la vie humaine de ses concitoyens et empêcher la mort qui est le plus important. Et ça, ça m'a été confirmé par de nombreux experts ukrainiens.
Et alors, l'une des clés de l'avenir de l'Ukraine se trouve aussi entre les mains de Volodymyr Zelensky. On connaît donc le chef de guerre. Quel négociateur de sortie de guerre pourra-t-il être ?
C'est une question qui va être très difficile. Je me suis entretenu il n'y a pas très longtemps avec une journaliste politique ukrainienne réputée qui disait que, vu ce qu'il a fait depuis le début de la guerre, si jamais il y avait des élections, elles sont dans 2 ans en Ukraine, Volodymyr Zelensky serait élu haut la main pour un deuxième mandat. Mais seulement s'il ne fait pas de compromis avec les Russes. C'est-à-dire qu'il y aura une négociation de sortie de conflit à un moment donné. Il y aura soit une défaite militaire d'un des deux camps, ou il y aura à un moment donné un accord qui sera passé sur des questions territoriales. Mais si Volodymyr Zelensky passe un compromis aux dépens de la souveraineté ukrainienne, les Ukrainiens, après un tel sacrifice, ne lui pardonneront jamais.
Et j'ai l'impression qu'on a titré ce livre « Zelensky dans la tête d'un héros ». Il ne s'agit pas d'en faire un héros, c'est un héros très humain, avec plein de problèmes, plein de compromis, etc. Mais s'il est un héros, il faut le comprendre dans le sens ukrainien, et c'est notamment parce qu'il incarne aussi un peuple qui se bat avec courage pour sa vérité, qui sacrifie sans doute des milliers et des milliers de vies. Et s'il peut faire des compromis à un moment donné, c'est qu'il pourra le faire simplement parce qu'il a la légitimité. Il a été élu, il était bien élu, personne n'a contesté cela, et dans l'espace post-soviétique, ça veut vraiment dire quelque chose. Et il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, peut-être qu'on fera des concessions territoriales, mais ça passera par un référendum. Peut-être que l'Ukraine demandera un statut de neutralité, mais ça passera par un référendum. Donc d'une certaine manière, ça lui donne une énorme force, ce qui est évidemment tout ce que déteste la Russie de M. Poutine, puisqu'on passe par-dessus la tête des peuples. Et ça, je crois que c'est vraiment très très fort pour son avenir aussi.
C'est sur ces mots qu'on clôt notre conversation. Merci Régis Jeantet, merci Stéphane Sioran.
Merci à vous.
Merci.